Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cette année, le mouvement des Gilets jaunes a posé la question du maintien de l'ordre et des moyens utilisés pour contenir les manifestants. Une arme notamment est mise en cause, le LBD pour lanceur de balles de défense. D'après des décomptes de journalistes et de parlementaires, depuis le début de la crise en novembre 2018, 24 personnes ont été éborgnées par des LBD. Claudia Prolongeau a rencontré l'une de ses victimes, Alexandre Frey. Blessé le 8 décembre, il se bat maintenant pour l'interdiction des lanceurs de balles de défense.
Alors je m'appelle Alexandre Frey, je suis un petit picard comme vous le voyez, j'ai 37 ans. Là, j'ai été touché par une balle de LBD 40 le 8 décembre sur les Champs-Élysées. J'ai perdu l'usage de mon œil droit.
Alexandre, cheveux bruns mi-longs retenus en arrière, insiste pour qu'on se retrouve dans un café où il a ses habitudes. Surtout depuis qu'il a perdu un œil et que sa zone de confort s'est réduite à Breteuil-sur-Noye et les quelques villages alentours. Avant, il partageait son temps entre Paris, où il exerçait son métier de décorateur de plateau, et cette petite commune de l'Oise, autour de laquelle vivent sa famille et ses amis. Il faisait le trajet en voiture plusieurs fois par semaine. Intermittent, il était aussi, comme beaucoup d'entre eux, précaire, et quand le mouvement des Gilets jaunes a émergé en octobre, il s'y est tout de suite identifié et a fait partie des premiers manifestants.
Et je pense que voilà, de manifester quand on sent que ça va pas, qu'on boucle pas les fins du mois, personnellement, ouais, je bouge, j'ai bougé, je suis un militant, ouais.
Vous y alliez tous les samedis à Paris ?
J'ai fait les premiers actes jusqu'à temps que je tombe sur les Champs-Élysées à l'acte 4, quoi. Après, bon, c'est pas évident pour se relever, retourner dans les manifs et puis. Non, je pense que là, voilà, ils m'ont séché, quoi. Donc,
Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là, ce 8 décembre ?
J'étais à Paris toute la semaine. Moi, je bosse, je suis intermittent. J'ai dit à mes amis, si vous voulez, on va aux manifs demain. Mais j'étais loin d'imaginer que ça allait être la guerre. Hein. Après, dès qu'on a passé la Seine, dès qu'on est arrivé dans le 8e, c'était chaud. C'était pas une manif comme d'habitude.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui faisait que c'était pas une manif comme d'habitude ?
Il était 10h, c'était déjà en train de péter, quoi. D'habitude, c'est ce qui se passe vers 15-16h. Là, c'était déjà chaud. Moi, je vous dis, à midi, il faisait nuit dans Paris. C'était la guerre. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Et je me suis même dit à un moment, ça pue pour nous, quoi. Il y avait des voitures qui brûlaient, il y avait... Non, c'était le chaos. Ça commençait à les poubelles, les machins, des feux, des mouvements de panique. On était là, on se dit, c'était plus une manifestation, c'était déjà sauver sa vie, quoi. On essayait de partir à droite, à gauche, on savait même pas ce qu'on faisait, en fait. Donc arrive un moment, quand j'ai dit à mes amis, venez, on va repartir par là et on va réussir. Moi, à un moment, je voulais sortir de ce truc. Je n'allais pas rester jusqu'à 16h là-dedans ou 17h, jusqu'à la fin des manifs. Je me dis, ouais, il faut qu'on sorte de ce guépier, quoi. Je vois qu'on nous tire dessus et puis là, d'un coup, je vois des comme les traceurs de snipers, là. Et je vois tout ça sur moi, des trucs rouges, quoi, le laser. Après, j'en prends une dans l'œil. J'ai un ami qui me dit « Ouais, t'as plus d'œil. » Et du coup, mon pote, il m'a pris sous son aile et puis il m'a dit « Ouais, Et une petite dame a nous ouvert un hall. » À ce moment-là, ça a fait... J'entends des bruits, je vois flou. Après, je revois bien. Après, j'entends plus les gens. J'essaye de pas tomber en syncope, en fait. Parce que moi, j'ai balancé mon œil sur les Champs-Élysées, en fait. J'avais tout mon œil dans ma main, donc j'ai balancé mon œil. C'est peut-être le regret que j'ai dans ma vie.
Si vous l'aviez gardé, on aurait pu vous le remettre.
Je sais pas, non. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la moitié d'un œil Il a rien à faire dans ma main, quoi. J'ai balancé, voilà. Il a été balayé sûrement par le lendemain, tu vois. C'est les boules, mais c'est comme ça.
Dans le hall de l'immeuble où Alexandre s'est réfugié, il se fait un garrot autour de la tête avec son gilet jaune. Alerté, les pompiers tentent de venir le chercher pour l'emmener directement à la fondation ophtalmologique Rothschild. Mais ils ne peuvent pas accéder à l'immeuble. Ce n'est que vers 16h qu'Alexandre parvient à les rejoindre.
Ils ont surtout fait en sorte que je ne m'endorme pas. Après, dès que je suis arrivé à la fondation Rothschild, je savais que j'avais été pris en main et qu'ils allaient me mettre des tranquillisants, des anesthésiants, la douleur de... Ouais, non, j'espère le plus revivre, ça. Ça, c'est affreux. C'est une douleur indescriptible. C'est même les jours qui suivent, tout. Je me suis sorti d'une belle galère, quoi.
Vous avez été opéré combien de temps, vous savez ?
6 heures. Avec deux chirurgiens. Ils m'ont fait... Parce qu'en fait, j'ai eu orbite explosée, rétine explosée, j'ai eu paupière explosée, j'ai eu pommette explosée. J'ai eu tout l'orbite donc, qui a été renfoncé dans mon crâne, en fait. On peut dire ça, quoi. Après, j'ai la cavité aussi qui a dû être touchée. J'ai tout ce qui est... tout ce qui est nasal, pareil, ça a été touché. 70 points de suture dans l'œil, des micro-points, chirurgie faciale. Puis ouais, après, tout derrière ce qui suit, il n'y a pas que réapprendre à tout, à marcher, à voir, tout.
Le lendemain, les amis d'Alexandre qui l'accompagnaient sont là, mais plus personne n'a de batterie pour prévenir sa famille. Sa compagne, qui a vu une photo de lui où il semble blessé circuler sur Twitter, trouve enfin le nom de l'hôpital où il est et vient le voir le lundi. Les chirurgiens déterminent immédiatement qu'Alexandre a reçu dans le visage une balle de LBD.
Ils m'ont dit que voilà, on pouvait vivre avec un œil et qu'il fallait du temps et surtout être fort dans le mental. Il faut avoir un gros mental parce que mettez-vous à ma place 10 minutes juste en fermant un œil, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile. Il faut un temps d'adaptation pour le cerveau, pour tout. En fait, après, on n'est plus la même personne non plus.
Quand votre famille est arrivée, comment ils ont réagi ?
Ils ont tous pleuré. Hein. Ils sont arrivés avec des amis qui étaient avec moi sur les champs. Et en fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes rempli de sang et tout. Puis là, ils me font, mais non, mais c'est ton sang, c'est pas le nôtre, quoi. Ils y sont arrivés, ils étaient encore habillés de la veille. Ils avaient galéré toute la nuit, sûrement dans Paris. Tout le monde s'était dispersé, vu que c'était la guerre. On savait même plus qui était qui. Hein. Quand ma famille est arrivée, ils étaient déjà contents que je sois en vie. Et puis que tout de suite, on m'a dit, ouais, vous avez perdu l'usage de votre œil. Donc j'ai pleuré comme tout le monde, mais je me suis remis tout de suite. J'ai dit, ouais, il faut avancer maintenant, c'est bon. Je réapprends à marcher le premier jour. Après, je réapprends à me laver. Après, je réapprends à manger tranquillement parce que ma mâchoire, elle est complètement éclatée. J'ai tout éclaté, quoi, en fait. Et après, on sort, on réapprend à regarder la lumière. On réapprend tout. À lire, on réapprend à écrire. On réapprend, ouais. Moi, je joue au foot, donc je peux plus faire. Conduire, faire 500 km, 600 km, je sais pas. Alors qu'avant, je pouvais descendre sur la Côte d'Azur tranquillement.
Là, vous conduisez que sur des tout petits trajets ?
J'évite. Non, j'évite. 4 heures d'activité, pour moi, c'est 8 heures. Je suis fatigué, doublement fatigué. Non, c'est vrai, franchement, c'est super fatigant, en fait.
En février dernier, le professeur Tinès, neurochirurgien à Besançon, a lancé une pétition.
Moi, en tant que neurochirurgien, c'est vrai que ça m'a vraiment choqué, voire scandalisé, de voir qu'on pouvait aller en manifestation et puis rentrer le soir avec un œil en moins, avec un crâne fracassé, des gens qui étaient dans le coma. Enfin, c'était quand même assez inédit. Hein.
C'est un niveau de gravité de blessure que vous ne voyez pas du tout d'habitude dans ces contextes-là.
Ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir qu'on retrouvait en fait des blessures que nous on rencontre habituellement dans les accidents graves de la route, ou des gens qui vont tomber de plusieurs dizaines de mètres puisqu'ils se sont défenestrés, ou des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que maintenant, ces gens-là, finalement, c'était pas des blessés dans ces conditions-là, c'était des gens qui étaient juste allés manifester dans la rue, quoi. Donc, et ce qui était choquant aussi, c'est de voir que la plupart des blessures graves, c'était des gens qui étaient pas particulièrement violents, quoi. Donc, bon, y avait une incompréhension totale entre la gravité des blessures et puis le comportement qu'avaient pu avoir les gens, quoi. Donc, c'est ça aussi qui était très choquant. La pétition, je l'avais lancée en janvier. Moi, j'ai mené plusieurs actions au fil des mois pour essayer de maintenir le débat autour de cette question, parce que je pense que c'est une problématique qui est vraiment importante. Je ne pense pas qu'on peut tolérer ça en France, qui est pays des droits de l'homme, l'usage d'armes de guerre contre la population civile, parce que c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Après, moi je l'ai dit depuis le début, quand des forces de l'ordre sont attaquées, sont en légitime défense par rapport à quelqu'un qui attente à leur vie et qui utilise ces armes, on peut très bien comprendre que les policiers puissent sauver leur vie. Maintenant, dans la plupart des cas, on l'a bien vu, les policiers n'étaient pas en situation de légitime défense. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un dévoiement de l'usage de ces armes. C'est bien qu'on continue à parler de ce problème-là, parce que c'est un problème vraiment crucial, je pense, pour les années à venir. Hein, parce qu'on voit bien que là, le gouvernement a racheté, a refait des commandes de LBD, a refait des commandes de grenades, etc. Donc on voit bien que les choses ne vont pas forcément s'apaiser, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant, et je pense qu'il faut vraiment continuer à parler de ça.
En tout, Alexandre a passé 4 jours à l'hôpital. Le 11 décembre, il rentre chez lui et découvre sa nouvelle vie, rythmée par les visites des infirmiers qui viennent changer ses pansements.
Bon, au début, j'ai eu un compensateur, donc c'est une coque donc qui rejette un peu tout. Ça, c'est rempli de petits trous et en fait, ça rejette un peu tout ce qu'il y a dans l'œil et ça le protège à la fois. Ça me permet que la paupière ne rentre pas à l'intérieur et que même mon visage commence à couler. Après, de là, la cicatrisation, ça prend beaucoup de temps. Avant d'avoir un œil de verre ou une prothèse, il faut vraiment cicatriser ça, vraiment. C'est à 90% guéri, quoi, mais après, vais-je supporter la nouvelle prothèse? Je sais pas. Il y a pas mal de flottements, ouais, donc.
Vous avez un œil de verre, là, c'est ça?
Ouais, j'ai une prothèse fixe. Et après, j'espère qu'elle sera amovible, quoi, elle sera. Elle bougera en fonction de mon œil, parce que je sens que quand même, j'arrive à fermer mes yeux, j'arrive à les ouvrir, donc je me dis qu'il y a encore des muscles, donc.
Vous pourrez l'enlever vous-même ?
Bah ouais, déjà, ils vont m'apprendre tout ça, parce que ça, je sais pas encore trop faire.
Puis, il faut le faire ?
Bien sûr. Il faut le nettoyer, puis même s'il tombe, faut savoir le remettre. C'est clair que avant j'étais intermittent, maintenant je suis ophtalmo, oculariste, infirmier, juriste.
Quelques semaines plus tard, Alexandre rencontre Jérôme Rodriguez, l'un des leaders du mouvement qui a perdu un œil, lui, le 26 janvier. Avec d'autres blessés par des tirs de LBD, il crée le collectif des Mutilés pour l'Exemple et continue à manifester, mais plus rarement.
Maintenant, je fais partie d'un collectif avec Jérôme Rodriguez qui fait partie des Mutilés pour l'Exemple. Donc on a construit un collectif qui constitue que des personnes qui ont été, pour moi, de bavures policières. Donc, toutes les semaines, on en a de plus en plus. Donc moi, je suis un des premiers avec Robin, Castille, il y a Jérôme, il y a David, il y a Antoine, qui a perdu sa main aussi. On est tous concernés. Et voilà, on se bat pour justement que ces violences, elles arrêtent. Donc demain, que ça soit pas notre fils ou votre fille qui se fasse tirer dessus, quoi, c'est tout.
Au moment où Alexandre me raconte cela, j'ai envie d'en savoir plus sur le LBD. Je contacte David Dufresne. Il est journaliste indépendant et il a recensé depuis la deuxième manifestation des Gilets jaunes en décembre tous les actes de violence qui lui paraissaient illégitimes ou illégaux. Il a documenté entre 150 et 200 cas de personnes touchées à la tête par des lanceurs de balles de défense, alors même qu'il est proscrit de viser le visage avec cette arme.
Le flashball dans les années 90, quand il est mis en place pour des services d'élite, type raid GIGN, pour neutraliser, sans tuer, des forcenés, des preneurs d'otages, des choses comme ça. Pas du tout pour être utilisé dans le cadre de maintien de l'ordre, où on est face non pas à un individu seul, mais à une foule. Donc de toute façon, son usage n'est pas fait pour ça. Les policiers doivent l'utiliser quasiment en dernier recours, c'est-à-dire au moment où ils ont besoin de se défendre. Or, ce à quoi on a assisté pendant 7 mois concernant les Gilets jaunes, c'est que ces balles de défense, c'était des balles d'attaque, ne sont pas faites pour le maintien de l'ordre. Ce qui est important à signaler, c'est qu'en 7 mois de temps, la France a occasionné autant de blessés graves en maintien de l'ordre qu'en 20 ans.
Vous êtes surpris, vous, que malgré tout ce travail qu'il y a, et notamment le vôtre, qui n'est pas vraiment de réponse, en fait, ça n'a quand même pas l'air d'être un sujet qui va bouger demain.
Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a des collectifs qui se sont constitués. Vous avez les instances internationales qui ont commencé à demander des comptes à la France. Et puis, vous allez avoir des procès. C'est ça qui est important. Il y aura donc des témoignages. Il y aura donc de la connaissance. Donc, effectivement, c'est un temps long. La France a blessé, a mutilé une partie de son peuple. C'est quand même ça ce que les historiens retiendront. Donc, évidemment qu'à un moment donné, le temps des regrets arrivera.
Le 17 décembre, Alexandre a porté plainte pour violences aggravées, certificat médical à l'appui. L'IGPN a ouvert une enquête confiée maintenant au parquet de Paris. Aujourd'hui, Alexandre est handicapé à 70%. Après ses 90 jours d'ITT, il reste dans l'incapacité de travailler, retrouver le monde, les autres, affronter leurs regards et répondre à leurs questions. Reste trop difficile pour lui. Vous avez dit quoi à vos enfants quand vous êtes rentré chez vous ?
J'ai dit « Papa, il s'est fait tirer dessus ». Puis après, j'ai dit « Bah, de toute façon, s'ils font un prochain prix Pirates des Caraïbes, papa, il sera dedans ». Donc non, mais ouais, voilà, j'ai pris ça à la rigolade. Et puis après, c'est sûr que l'image que je donne à mes fils, il n'est pas très bon pour la conjoncture prochaine, quoi. Ils vont avoir une très mauvaise pensée des forces de l'ordre. Ou... Je pense pas que mon fils, il soit gendarme ou policier, quoi. Je pense pas.
Avant, si.
Bah ouais, pourquoi pas. Ça aurait pu, hein. J'aurais pas dit non. Hein. Quand c'était le Bataclan, on était content qu'ils nous aident. Quand c'était la Coupe du Monde, ben limite, on a gagné la Coupe du Monde sur les champs, ben ils étaient contents d'avoir gagné la Coupe du Monde avec nous. Et puis voilà, 6 mois après, moi je perds un œil sur les champs, on me tire dessus. Donc moi j'en veux au-dessus en fait. J'en veux au-dessus. Tous les jours, je me lève, je nettoie mon œil, je rêve avec mes deux yeux, mais je me lève avec un œil quoi. Donc tous les jours, moi je me regarde dans la glace. Le mec il m'a tiré dessus, il pense déjà plus à moi. Hein. Après, j'aurais pensé que la France aurait arrêté à partir du 8 décembre de tirer sur les gens. Après, mais ça s'est pas passé comme ça. On continue de tirer sur les gens. Donc...
Claudia, pour faire face à des manifestants violents, est-ce qu'il y a des alternatives au LBD ?
Il y en a dans d'autres pays, puisqu'il y a plusieurs pays en Europe qui n'utilisent pas ce genre d'armes. Il y a notamment l'Allemagne qui, elle, maintient l'ordre avec des canons à eau et des matraques essentiellement. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit que si on arrêtait le LBD en France, on n'aurait plus que les armes à balles réelles et que donc ça serait encore plus dangereux pour les manifestants. Mais le défenseur des droits, Jacques Toubon, lui, estime qu'on pourrait s'aligner sur l'Allemagne et que donc on pourrait se passer du LBD.
Tu parles l'Allemagne, où en sont nos autres voisins ?
Sur le continent européen, en fait, il y a finalement très peu de pays qui continuent à utiliser le LBD. Il y en a 5 en tout, donc il y a la France, il y a la Hongrie, il y a la Pologne, il y a la Grèce et il y a la Turquie. Et ce sont les derniers pays, sauf rares exceptions, qui utilisent le LBD systématiquement.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Jérémy Famelet du service police-justice du Parisien pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Benoît Laure et Benoît Gillon. Tous les épisodes de Code Source sont disponibles sur leparisien.fr, les applications de podcast dédiées et les plateformes comme Deezer et Spotify. Vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par mail codesource@leparisien.fr.